première.
Oui.
Oui.
22h, 23h. Par oui dire.
Pascal Tison.
Dis-moi. Par oui dire.
Par oui dire.
Julie Maréchal, vous me dites deux lieux. Une exposition sur deux lieux.
Nous sommes à Oui. Le lieu qui était le premier, c'était évidemment l'espace Saint-Mangold, parce qu'il a des atouts, une église désacralisée qui permet d'organiser des spectacles, mais aussi des expositions. Mais dans le projet, il y avait cette idée de montrer aussi des œuvres ici au centre culturel.
Thiange, esquisse pour un shelter studio.
En fait, il y a une répartition des œuvres dans les deux lieux et ça s'est fait de manière assez naturelle. Donc des pièces peut-être un peu plus importantes dans l'espace Saint-Mangold, et puis il y avait parfois des attentes particulières des artistes, donc on les a accueillis là-bas. Et donc ça s'est fait assez naturellement, donc il y a des choses à voir des deux côtés et ça se complète.
Thiange, esquisse pour un shelter studio. Ah oui, jusqu'au 17 février, à l'espace Saint-Mangold et au centre culturel.
C'est le résultat d'un processus de compagnonnage en tant qu'éditeur d'une artiste, Cécile Massard, qui depuis des années poursuit un travail qui est en même temps une action, un engagement politique également, sur la question de l'enfouissement, c'est vraiment ça le thème central, l'enfouissement des déchets nucléaires. Donc une façon de militer non pas pour ou contre le nucléaire, mais pour constater une réalité qui est notre situation, notre culture contemporaine, qui est une culture nucléaire, mais que soit parce que on se sent ou on nous fait nous sentir incompétents en tant que non-experts, soit parce que c'est une question qui nous tétanise. Généralement, cette question du nucléaire est rarement abordée. C'est presque un peu l'impensé, voire presque un tabou quelque part, parce qu'effectivement, ça a des implications tellement considérables qui peuvent, si on est un petit peu, disons, craintif, et on a des raisons de l'être par rapport au phénomène nucléaire, évidemment, c'est quelque chose qui peut anéantir évidemment toute forme de pensée.
Ah oui, jusqu'au 17 février, à l'espace Saint-Mangold et au centre culturel, dans le cadre de Atome Crochu, exposition, spectacle et rencontre autour du nucléaire.
L'exposition s'appelle Thiange, esquisse pour un shelter studio. C'est le collectif qui l'a choisi, ce titre. Et en fait, tout ça, c'est dû à, en tout cas pour ma part, à une rencontre avec Cécile Massard, qui est venue avec cette proposition d'exposition avec son collectif d'artistes, qui est né assez récemment à Bruxelles, à partir d'une exposition qu'elle a organisée. Donc là, ils sont 28 à exposer ici, un peu répartis dans ces deux lieux. C'est vraiment une énergie de collectif.
Avec Julie Maréchal, Annick Blavier, Daniel van der Gucht, Jocelyne Koster, Natalia de Mello, Benoît Félix, Jean Coton et Cécile Massard.
Pas mal de créations en fait pour cette exposition. Ils ont exposé récemment à Bruxelles à la Centrale. Pour le coup, ils ont voulu faire des propositions vraiment dirigées vers le lieu, c'est-à-dire ici, Oui et Thiange, puisqu'il y a une centrale nucléaire. Et voilà, donc c'était une proposition qui est arrivée comme ça, et on s'est dit, je me suis dit tout de suite, c'est l'opportunité finalement de parler de sujets
dont on parle beaucoup aujourd'hui.
Dont on parle, je pense, peu ici. C'était bien parce que c'est aussi l'occasion peut-être de briser la glace et de rentrer en contact avec les riverains locaux, puisque Cécile elle-même, elle se considère riveraine en tant que bruxelloise, riveraine de Thiange. Mais ici, les riverains locaux, ils sont, j'ai le sentiment, plutôt taiseux. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'on puisse discuter avec Cécile de ça, du fait aussi que parler de Thiange, des centrales de Thiange, de manière assez ouverte, c'est aussi se dire qu'on ne rentre pas dans un clivage ou un discours du pour ou du contre, mais on essaye de voir au-delà et de se dire qu'est-ce qu'on fait ensemble avec ce qu'on connaît et avec les envies et les rêves peut-être et les idées.
À la criée, chaque année, à la récolte, il y avait le garçon en fait qui allait chercher un cajot de fraises. Il avait une escorte pour aller livrer les fraises de Tihange au Palais Royal. C'est invraisemblable ce genre de choses.
Extrait de la pièce radiophonique de Marie-Laure Vranken, intitulée « Quand Tihange goûtait la fraise ».
Ce qu'on espère, en tout cas avec ce projet, c'est à un moment donné que les personnes disent les choses, disent ce qu'ils voient, disent ce qu'ils ressentent. Et je pense qu'il y a des riverains et des personnes de la ville qui ont des impressions, des choses à partager.
Tihange, esquisse pour un shelter studio, par Thierry Junico. Le Monde Invisible est produit par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.
Mon sentiment, moi, c'est que... on a tellement le nez devant ces tours de refroidissement, ces cheminées, qu'on ne les voit plus.
Moi, ce que je trouve qui est tout à fait remarquable et salutaire chez Cécile, c'est aussi cette volonté de réunir un certain nombre d'artistes, mais aussi des intellectuels, mais aussi des scientifiques, des experts, des ingénieurs, qui soient contre le nucléaire fondamentalement, ou qu'ils travaillent dans le secteur du nucléaire, pour essayer effectivement d'inventer, d'imaginer ce qu'elle appelle des marqueurs, pour faire en sorte en tout cas que la planète ne devienne pas un lieu d'enfouissement de ces déchets nucléaires, que l'on va oublier aussitôt, hein, comme si effectivement on avait caché la poussière sous le tapis, mais donc trouver effectivement une architecture, une signalétique, une intervention artistique, mais pas seulement artistique, qui permette effectivement pour les générations futures, parce que c'est ça la finalité, c'est de travailler pour les générations futures et pour effectivement avoir des marqueurs qui indiquent ces seuils et ces lieux de dangerosité pour les générations donc, qui vont nous succéder.
Ici, parfois, je suis interpellée par des plasticiens, des artistes allemands qui viennent parce qu'il y a un attrait par rapport à ce sujet, par rapport au nucléaire, et on vient me parler de Tihange parce que vraisemblablement, c'est très parlant pour eux et surtout d'un point de vue extérieur. Mais ici, on ressent très, très peu ce besoin de parler. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue personnel, ce dont je peux m'apercevoir en côtoyant les gens ici des alentours.
Avez-vous des souvenirs de l'Expo 58?
Absolument.
Cette place de Belgique.
Les Kaliskis.
Mon œuvre.
Allez, va cinquième.
C'est une garden party très contemporaine.
Merci d'être là.
Aschenbach, Lino Polegato.
Dans mon histoire de ma peinture.
Allez, Chinsky.
Authentique, me tento, me tente, tente, stélie.
Le monde invisible.
Voilà longtemps que Cécile Massard travaille sur la question. Et voilà que l'actualité la rattrape. Voilà que l'artiste qu'elle est précède évidemment cette actualité dans sa pensée. Ça fait aussi de l'engagement dans tous les sens du mot, puisque soit au niveau des formes de l'imaginaire jusqu'à ce shelter, c'est-à-dire ces réunions informelles citoyennes, comme on dit aujourd'hui, n'est-ce pas, Daniel van der Vugt?
Oui, c'est exactement ça. Donc, c'est ce qu'elle appelle des shelter studios, ici, qui est encore un autre de ces concepts qu'elle a développé au fil des ans. C'est cette idée précisément d'ouvrir la parole et de partager la parole pour que puisse émerger une conscience et voire une culture. Pourquoi pas du nucléaire.
Annick Blavier, votre acquaintance avec Cécile Massard?
Je connais son travail depuis longtemps. J'apprécie sa persévérance dans le sujet. Donc elle n'a vraiment pas pris le train en marche. Donc j'ai vu son exposition chez Peinture Fraîche. Elle m'a proposé de participer au workshop. Donc l'idée m'a bien plu, cette idée de collectif.
D'avoir cette réflexion collective et cette responsabilité collective aussi de savoir ce qu'on va faire de cette situation dont on a nous-mêmes déjà hérité et dont on va faire hériter nos enfants.
Et c'est vrai que je travaille depuis toujours sur la mémoire et sur la trace. Ce que j'expose ici, c'est trois tirages au pigment, mais qui ne forment pas un triptyque. Ces trois collages que j'ai réalisés à des époques différentes, mais qui pour moi rejoignaient les préoccupations à la fois de Cécile et de moi-même, c'est-à-dire la mise en inquiétude, que faire des déchets radioactifs. Et en fait, j'appartiens à une génération qui a connu la guerre froide. Je ne peux pas dire que j'ai connu Hiroshima, mais je veux dire, les films qu'on a vus à mon adolescence, je veux dire, m'ont marqué. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que je n'ai pas fait d'enfant non plus, parce que j'ai toujours eu très peur de la folie des hommes. Et donc, d'une goutte d'eau, comme disait Bernard Villers, dans une grande problématique qui nous dépasse un peu, mais auquel on aimerait quand même bien, si pas participer, proposer, si pas une réflexion, un regard autre, ou essayer de provoquer une interrogation. Voilà.
Ces trois images, un mot sur l'une d'entre elles?
Je crois que c'est la dernière, celle la plus abstraite. Un fragment d'image imprimée, accompagné d'un espace vide, qui met en évidence le fragment d'image imprimée, qui est déchiré, deux chiffres, 3-4. Et en dessous, il y a une petite phrase qui vient aussi d'une revue ou d'un journal, une bribe de phrase. Mais c'est tout repensé. Et je crois qu'on est à un moment historique, charnière à plein de niveaux, où il faudrait tout repenser et accepter de mettre carte sur table.
Ce mot n'est plus du tout à la mode, mais c'est presque une question métaphysique, n'est-ce pas ?
C'est forcément métaphysique, parce que ça engage la pensée sur des voies qui ne sont pas balisées par la raison. Et c'est ça qui, à la fois, fait peur, mais c'est aussi la raison pour laquelle il y a urgence, parce qu'on va se retrouver effectivement dans une situation sinon de barbarie intellectuelle, où on n'est pas capable de penser notre condition humaine aujourd'hui dans cette culture ou cette anthropocène, comme on dit parfois, nucléaire.
On me parle d'un collectif, Cécile Massard.
Oui, le collectif La conscience du paysage. Et ce collectif, en fait, il est né spontanément lors d'un projet d'exposition en avril 2017 à l'espace galerie Peinture Fraîche à Bruxelles, la librairie Peinture Fraîche à Bruxelles. Voilà.
Jocelyne Coster, à vos yeux, Cécile Massard, qui est-elle ?
Cécile Massard est avant tout une artiste plasticienne qui a un travail que j'admire depuis très longtemps, parce que je trouve qu'il est très intéressant et pertinent au niveau formel. Et depuis plusieurs années, elle a orienté tout son savoir vers les problèmes déchets du nucléaire, c'est-à-dire ce qu'on en fait, comment on les traite, où on les cache. Et donc, elle continue à faire un travail plastiquement, je trouve, très intéressant, mais qui est lié avec cette thématique.
La conscience du paysage, c'était le titre de l'exposition. Et en fait, qui posait la question justement des pays nucléarisés, des paysages dans les pays nucléarisés, surtout, et ça c'est mon dada, c'est la lecture des sites de déchets radioactifs. Et c'est là que je proposais juste 6 œuvres, simplement, en laissant des espaces de respiration. Et puis alors, finalement, le jour du vernissage, j'ai proposé s'il y avait des artistes dans l'assemblée, ou en tout cas qui avaient envie de me rejoindre sur cette problématique-là, qu'en fait, les espaces qui étaient là étaient pour eux. Et donc c'est ainsi que pendant 20 jours, les espaces se sont nourris de photos, de dessins, vidéos, dans l'ensemble de propositions qui parlaient du nucléaire en général, parfois des déchets radioactifs. Et c'est joint à ça un concept en fait qui est né à mon retour de Fukushima et qui est le Shelter Studio.
Et vous-même, que montrez-vous, questionnez-vous ?
Déjà quelque temps, j'avais fait des mots et leur contraire. L'idée, c'était de trouver un mot et son contraire dans le même nombre de lettres. et de les installer sur des petits accordéons en métal, qui fait que d'un côté on voit un mot, de l'autre côté on voit son contraire, et de face on voit le mélange des deux, une lettre sur deux. Je me suis dit que j'allais utiliser cette partie de mon travail. Les deux premiers mots qui me sont arrivés à l'esprit, c'est « danger, sûreté ». Donc c'est ça que j'ai mis en place au départ. Ça, c'est ce qui était présenté dans une première exposition qui a eu lieu à la centrale à Bruxelles, à la centrale électrique, centre d'art contemporain. Et puis pour l'occasion, parce qu'il y avait un peu plus d'espace, j'en expose 6 autres, qui sont pour la plupart des mots que j'entends à la radio, et qui sont toujours ce qu'on entend à la radio, qui revient assez régulièrement. Le vocabulaire, c'est toujours assez représentatif de l'époque, du social, du socio-économique, du politique. Et donc chaque fois que j'entendais souvent un même mot, je sais trouver son contraire, un même nombre de lettres. Et donc là, il y en a 6 ou 7 en tout.
Si on est allé là-bas, ou si on est allé à Tchernobyl, ou si on est allé suite à une de ces catastrophes, je crois qu'on ne peut pas ne pas réfléchir, nous, en tant que riverains. Enfin, moi, je me sens riveraine, hein, franchement, que ce soit de Doul, de Tihange, de l'une ou de l'autre.
Tour, trou, tourte, outre, ou tour, trou, tourte, outre, ou tour, trou, tourte, ou trou, tour, trou. Tourte, outre, ou tour, trou, tourte, outre, ou tour, trou. Tourte, outre, ou tour, trou, tourte, outre, ou tour. Trou, tourte, outre, ou tour, trou. 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 Tourte, outre, ou trou. Tourte, outre, ou tour, trou. Tourte, outre, ou tour, trou. Tourte, outre, ou trou. Tour. Tourte, outre, ou tour. Trou tourte, outre ou tour, trou tourte, outre ou tour, toutre.
Raté.
Réfléchir à un lieu qui serait concret, hein, qui serait vraiment, c'est pas virtuel. Au début, je pensais, mais je pense qu'il faut vraiment quelque chose de concret où on puisse recevoir des informations de toutes parts, ensemble réagir par rapport à ces informations, poser des questions, et on ici, pour l'instant, en Belgique, mais je pense que c'est dans beaucoup de pays en Europe, nous sommes face à cette problématique du démantèlement prochain, d'une autre vie prochaine pour les riverains des centrales, et pour nous tous, une autre manière de voir les choses et de vivre probablement. Puisque, ben voilà, il y aura 7 centrales d'un coup qui s'arrêteront. Et que, quelque part, ben je pense que moi non plus, je n'y avais pas réfléchi. Donc je me mets dans le lot de ceux qui n'ont pas réfléchi il y a 20 ans à savoir comment on allait faire. Et puis maintenant, on se trouve devant ce problème. Enfin, je ne sais pas si c'est un problème. On va le surmonter, certainement. Puisqu'il y a quand même des gens qui cherchent aussi, et des chercheurs dans les universités. Il y a des ingénieurs qui cherchent à trouver des solutions. Et moi, je pense aussi que le monde artistique, le monde des philosophes, le monde de l'art, de la culture, a un rôle à jouer dans cette affaire-là. Ne pas le laisser uniquement aux mains des industriels, des politiques, parce qu'on voit où on en est. On n'a pas joué. Et puis maintenant, on se retrouve, on dit « Ah oui, mais si on avait su, bon. »
Le texte prévoit qu'à un moment, le lecteur se plantera.
Et moi, je propose cette idée de Shelter Studio. Et maintenant, on va me dire, enfin, un shelter studio pour Tihange, alors qu'on va avoir le démantèlement. Mais non, un shelter studio, c'est contemporain, ça doit faire corps avec...
Et j'entends la tour, j'entends outre, et j'entends trou.
Tourte.
Benoît Félix.
Le mot tour. Je présente ici, dans l'église Saint-Mangold, dans le cadre de cette expo, autour de la question du nucléaire, shelter. Une intervention vidéo qui s'appelle Tihange à Saint-Mangold, collage. C'est l'image projetée en très grand format du fût de la cheminée de l'un des réacteurs de la centrale nucléaire. Moi, ce qui m'avait frappé en regardant ce fût de cheminée, c'est l'habillage du quadrillage, comme une page quadrillée en fait, je pensais à ça, ces pages sur lesquelles les enfants apprennent à écrire, ou surtout à calculer. C'est peut-être surtout une histoire de calcul nucléaire.
Et il y a une concavité, évidemment, dans cette grille. Et donc, je voulais projeter en grand format, du sol au plafond, l'image qui est une image en mouvement, c'est un film, une vidéo, de cette cheminée. Je savais que l'église Saint-Mangold ne possédait pas des murs blancs plafonnés, en tout cas de cette taille, et donc l'image recevrait une qualité du bâtiment médiéval, donc de l'église Saint-Mangold. Et donc effectivement, l'image de cette tour projetée en grand format sur les vieilles pierres de ce grand mur de l'église Saint-Mangold change tout à coup de statut et devient une tour médiévale. Peut-être qu'un jour, les cheminées des centrales nucléaires, on les verra comme de vieilles tours, et on leur donnera le même statut que celui qu'on donne aujourd'hui aux tours, parfois partiellement abîmées, des vestiges médiévaux, des châteaux du Moyen-Âge.
Actuellement, ce qu'on fait, ce qu'on va faire, le démantèlement qui va durer une trentaine d'années, on est avec une population qui est jeune, à qui on va devoir expliquer que pendant leur vie d'homme ou de femme, eh bien, ils seront confrontés au démantèlement des centrales. Et, évidemment, comme il y a démantèlement, aussi expliquer à tous, parce qu'il y a des questions ici posées dans l'exposition, mais qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces déchets ? Une centrale nucléaire, c'est un déchet. Une tour, c'est un déchet. C'est énorme.
Comme le fût de la cheminée occupe plus que les trois quarts de l'image verticalement, a priori, quand on voit l'image, on pense que c'est une image fixe. Si on regarde, évidemment, on voit qu'au-dessus de la tour, il y a évidemment de la fumée qui s'échappe, dans un ciel bleu. Et donc, là aussi, il y a le statut qu'on donnait à l'image qu'on voit change. On voit cette image comme un film, comme une image en mouvement. Moi, ça me fait penser que le nucléaire, on ne voit pas que ça bouge.
Bah, il faut dire que, quand même, en Belgique, l'ONDRAF a fait un effort depuis une vingtaine d'années à trouver des solutions pour le stockage de tout ça. Et qu'on attend une réaction, mais qui devrait déjà être pour signer, pour qu'on puisse commencer à construire le site de Dessel, qui est des déchets faiblement radioactifs, bah, parce qu'on va se retrouver avec énormément de déchets. Et qu'il est complètement stupide de payer un million ou deux, je ne sais pas ce que ça coûte de construire un bâtiment pour stocker des déchets pour 10 ans, alors qu'il suffit de se dépêcher un peu. Enfin voilà, il y a toutes ces questions-là que j'entends ici, puisque c'est un petit rendez-vous ici quand même. Hein. C'est, on l'a appelé Esquisse, cette exposition, elle s'appelle Tirange, Esquisse pour un shelter studio.
Il y a une autre intervention dans le centre culturel, donc l'autre espace de l'expo.
Benoît Félix.
C'est aussi une projection vidéo à partir d'un film caméra fixe sur la même cheminée, mais elle est cadrée autrement. La part du ciel prend beaucoup plus de place, donc l'image est projetée verticalement. Mon idée au départ était de poser, comme cette projection-ci, à l'église Saint-Mangold, était de poser la vidéo sur la ligne du sol. Pour qu'on ait, cette fois-ci, pas tellement une tour, mais plutôt quelque chose comme un tambour, parce que le cadrage de l'image ne prend que le dessus de la cheminée. Et donc plutôt un objet sur lequel on pourrait s'imaginer peut-être s'asseoir, enfin ça dépend de la taille auquel on projette l'image. La colonne de fumée est très importante dans cette deuxième intervention, sauf que la vidéo est lue à l'envers. Et donc, on voit une cheminée qui aspire infiniment sa fumée. Et le titre de l'œuvre, c'est « Repentir ».
Donc c'est une exposition qui est une esquisse, qui est aussi un exercice, et qui permet à l'un et l'autre, soit qui aime l'art, qui n'aime pas l'art, ça n'a rien à voir. Je crois que chaque artiste ici sont 28, plus 6 étudiants de la faculté d'architecture, à présenter des œuvres qui parlent du nucléaire. C'est comme si l'un et l'autre arrivaient avec un livre, avec un texte, un voisin arrive avec autre chose, et que ça nous permet de discuter. C'est une espèce d'à chaque fois de petit pont qui permet devant telle œuvre de discuter de ça, d'un tel thème ou d'un tel autre thème. C'est très particulier cette exposition.
On n'aura jamais peut-être fini de se repentir du nucléaire. Et aussi, repentir, c'est un terme de peintre. C'est un terme de l'histoire de la peinture. Un repentir, c'est qu'une patte de cheval a été changée sous la surface de peinture, qu'une intention a été modifiée. On n'a pas autre chose que ce qui était peint d'abord, mais ce qui était peint d'abord fait encore symptôme dans l'image, et encore là.
Plus elle se situe à à 2 km de Thianges, et nous avons eu quand même pas mal de difficultés à organiser ce projet, parce que ce n'est pas une exposition comme une autre.
Alors cette deuxième intervention au Centre culturel de Huy, j'avais l'intention donc de la projeter en grand format, comme ça aussi, sur un grand mur, cette fois blanc. Et puis, au montage avec Julie Maréchal, moi, j'ai vu qu'il y avait tout à coup une prise, un mur avec une prise. Donc, j'ai projeté la vidéo de telle manière que la prise se trouve intégrée dans le fût de la cheminée. Et donc, c'est la prise, évidemment, à laquelle est branché le câble du projecteur. On a une image projetée sur la prise qui alimente le projecteur, qui lui permet d'exister. Et moi, ce qui m'amuse beaucoup, c'est que le nucléaire à Thianges, c'est Electrabel.
C'est une exposition qui suppose qu'on soit ici, qu'on soit présent, qu'on fasse des rencontres, qu'il y ait des dialogues.
Voilà, c'est une boucle.
Surtout, ce que moi j'espérais beaucoup et qui se concrétise, c'est qu'en fait, depuis un peu plus d'un an, moi j'essayais de rencontrer les hommes politiques, le bourgmestre, les chemins de la culture, etc., de Huy, pour essayer d'avoir une collaboration, pour recevoir les artistes, pour qu'on puisse même, éventuellement, mon idée était de faire des résidences, pour pouvoir bien comprendre ce que c'est d'être un riverain proche d'une centrale. Mais nous n'avons pas eu la possibilité de lui parler, puisque monsieur était occupé depuis un an, très occupé. Et puis aussi le directeur de la centrale, aussi très occupé. Je pense que c'est un moment très, très fort hein, pour l'instant. Et ceci dit, ce sont la direction de la communication de Engie Electrabel Bruxelles qui vient visiter l'exposition.
Daniel van der Gucht.
On a déjà réalisé un premier ouvrage avec Cécile qui s'appelait Cover et qui réunissait à l'échelle ces dessins, ces projets de marqueurs précisément, qui sont en même temps donc des réinterprétations de lieux, de topographie, d'enfouissement des déchets nucléaires un peu partout sur la planète, pour lesquels elle proposait donc des indicateurs, une des architectures monumentales. Donc cet ouvrage Cover a été une sorte de déclencheur pour un nouvel ouvrage qui est un peu particulier puisqu'il s'agit du résultat d'un travail collectif. Je ne sais pas si on peut véritablement parler d'un collectif, mais en tout cas ce sont des artistes et des intellectuels qui se sont réunis autour de Cécile Massin pour prolonger et pour soutenir et nourrir son travail donc de conscientisation de la question nucléaire.
Vous n'êtes pas dedans. Il y a une expression ici. Ben, ici, on est dedans. Donc, on ne parle pas. On ne s'exprime pas. Donc, nous, en disant « eux, les artistes sont de l'extérieur, ils ne sont pas utois, hein, et donc c'est plus facile pour eux. » Mais nous, c'est très compliqué, c'est très complexe. Ce que je pense bien, je suis tout à fait d'accord, je reçois cette information comme telle. Mais, et donc cette exposition, elle dit beaucoup sur ce que nous traversons maintenant, parce que l'idée était évidemment de pouvoir installer un shelter studio ici. Ah oui, ou dans les environs, hein, je ne sais pas. Mais pour ça, il faut mettre 4 éléments ensemble, les 4 éléments qui sont la politique, l'industrie, la culture. Mais la culture, c'est très vaste pour moi. C'est les écoles. Et c'est bien, c'est formidable ici. Les écoles viennent, ont envie qu'on continue à partager des choses, qu'on fasse des réunions ensemble, parce que ce seront les contemporains des centrales de Tihange en démantèlement. Faut pas oublier ça.
Il fallait quelqu'un, effectivement, pour donner forme aussi à un livre de façon un petit peu pérenne. Et j'ai eu la chance d'être l'éditeur. J'ai pris beaucoup de plaisir à réunir toutes ces pièces de puzzle pour en donner une formulation que Cécile Massard, en bonne plasticienne qu'elle est, a évidemment tout de suite déconstruit en venant sur les presses dans l'imprimerie, récupérer les feuilles pour les redistribuer autrement dans une... proposition que je n'ai pas encore découverte, parce que je vais aller voir dans quelques instants cette autre partie de l'exposition au centre culturel. Donc je vais découvrir ce dont vous me parlez.
Cécile Massard.
J'ai travaillé avec des étudiants de la faculté d'architecture Jean Blou, aussi du paysage. Mais aussi, il faut travailler avec les jeunes étudiants de Oui, parce que ce sont eux qui seront là, plus moi.
Natalia Di Mello. Cécile Massard parle de votre travail comme en tant que film.
Des plans fixes des deux centrales nucléaires que nous avons en Belgique, une de Doel et un autre de Oui, les deux centrales. La proposition que j'ai faite, c'était des marqueurs vivants, c'est-à-dire une personne qui pose devant la centrale comme un marqueur. C'est une photographie en mouvement, parce qu'on voit qu'il y a de la vie, parce qu'il y a quelques éléments qui bougent et parce qu'il y a du son. Mais sinon, l'objet en tant que tel, dans l'espace qui est la centrale, il est arrêté. Il y a la fumée qui donne une présence de vie et ce qui est autour de cet endroit, de cette tour. Voilà.
Cécile Massard, répétez, les 4 éléments sont...
Le politique, l'industriel, le culturel et les riverains. L'ensemble des riverains, l'ensemble des personnes qui... vivent autour, alentour, même très très loin. Je me sens riveraine de Tihange et de Doel.
Natalia de Mello.
Chaque marqueur est un code qui veut signifier quelque chose. Par exemple, dans le cas de Doel, j'ai pris une couverture de survie. Je l'ai tendu comme un drapeau.
Fukushima Daiichi, voir la centrale, j'étais à 90 km de Fukushima Ville. Mais quand j'ai vu dans l'état dans lequel était Fukushima Ville, je me dis, d'accord, j'habite Bruxelles, mais je suis riveraine.
Un ouvrage qui s'intitule...
Il a un double titre, c'est à la fois archive du futur, parce que la finalité est prospective et qu'effectivement il s'agit de préparer consciemment cette fois-ci un archivage, une documentation de ces couches nucléaires que nous préparons pour l'instant. Et puis un second titre qui est la conscience du paysage, mais aussi la conscience du nucléaire. Donc ça renvoie effectivement à cette notion de conscience et de culture de cette anthropocène nucléaire.
Qui est paru à la lettre volée.
D'autre part, l'autre, c'est un homme qui est de dos et sa veste qui est en dégradé bleu, donc qui va vers le ciel, qui est de dos, donc on ne reconnaît pas l'identité. Puis il y a un autre, c'est une petite fille qui est habillée en rose, avec écrit sur son t-shirt Hugs, donc câlin, et qui a deux petits ballons roses. Et en fait, cette fille, elle était là. Donc ce n'est pas du tout un marqueur vivant que j'ai imaginé. Non, c'est un marqueur vivant que j'ai saisi sur le lieu même et qui était un témoignage d'un moment dans cet espace-là.
Cécile Massard.
Tous les petits villages là-bas sont restés avec leurs déchets. Et qu'est-ce qu'ils ont fait de leurs rizières ? de leur rizière qui était bien dessinée là dans le paysage, des sites de déchets. Vous voyez maintenant des rectangles qui sont là, mais ils sont devenus des trapèzes et des volumes de sacs noirs, de sacs bleus, de sacs verts. Enfin, ça, c'est égal. Ils sont toujours, de toute façon, sont toujours des déchets de végétaux. Enfin, de végétaux. Les terres, on les a mises en tumulus près de la mer. C'est vraiment en rentrant de Fukushima que cette idée de Shelter Studio, parce qu'en fait, j'allais en 2015, en 2016, je suis repartie là-bas parce que nous avions promis, Saatchio Honda et moi, parce que je suis allée aider par des amis. Souvent, c'est comme ça. Tous mes reportages, c'est ainsi, sont des amis qui m'aident. Donc, Cécile Andrieux est venue la première fois m'aider pour des traductions. Ensuite, Saatchio Honda, qui est une ancienne étudiante aussi, qui est venue m'aider. On est retourné sur place. Et on a vu qu'en fait, à Minamisoma, eh bien, il y a un petit shelter studio qui s'était créé. Et nous sommes allés, nous avons conforté la chose, parce que c'est dans un temple, voilà. Il n'y a pas d'argent, on ne peut pas construire, donc voilà. Un moine a dit, mon temple, ok. De toute manière, déjà une partie du temple qui est occupée par 250 urnes de personnes disparues, qu'on n'est pas venu chercher, c'est-à-dire des familles qui sont parties loin, qui étaient atteintes, ou on ne sait pas, vous voyez, qui sont là, qui attendent. Et puis là, à côté, j'ai installé une table, des chaises, et avec l'université de Tokyo, eh bien, des personnes très angoissées, parce que quand ça se passe, si vous balayez, uniquement balayez votre cour, votre trottoir, vous vous dites, qu'est-ce que je fais de toutes ces feuilles? Est-ce qu'elles sont contaminées ou pas? Où est-ce que je les mets? Ou alors, vous avez de la salade qui pousse, ou des petites herbes, ou des choses comme ça, et d'un coup, vous vous dites, est-ce que je vais donner à manger à mes enfants? Est-ce que je peux le donner à mes enfants? Alors, ces personnes vont au temple, et alors on analyse, vous voyez, la feuille, l'herbe, ou je ne sais pas moi, des végétaux, souvent ce sont des végétaux, et voilà, et ça conforte un peu les personnes. Vous voyez, donc, voilà, c'est cette idée de rapport, de contact, de communauté qui s'aide et qui s'entraide pour vivre.
Julie Maréchal, quand vous dites Cécile, il s'agit de Cécile Massard.
Ben Cécile, c'est une plasticienne qui est d'abord graveur et qui s'est très vite dans son travail intéressée aux couleurs, aux pixels, etc. Et puis à un moment donné, elle a eu un coup de foudre, je crois, pour le domaine un peu scientifique. Et je crois que c'est un graphique, en fait, qui était très coloré, qui montrait les niveaux de radioactivité qu'elle a vus à la télévision.
Natalia De Mello.
Ça a été un peu la même chose. Ce que j'ai dû chercher, c'est un espace où je pouvais intégrer autour de la centrale, parce qu'il y en a plusieurs, et dans lequel il y avait une notion d'échelle qui changeait. C'est trois marqueurs qui posent, mais qui ont l'air très 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 petits par rapport à ces deux tours. Et puis à un moment donné, il y a un petit papillon qui passe, qu'on le voit à peine, qui est dans la nature, et on entend toujours la nature, qui lui, il est plus grand que l'humain, mais plus petit toujours que les tours. Donc c'est un peu, c'est qu'est-ce qui se passe autour, et c'est ça les marqueurs pour moi.
Cécile Massard, les étudiants de la Cambre en architecture et de Jean Blou en paysage, qu'ont-ils travaillé, étudié?
C'est en rentrant de la Documenta de Cassel et j'étais assise à côté de Patrice Nerings, qui est professeur d'architecture à la faculté d'architecture. Nous avons discuté et il m'a dit, voilà, alors est-ce que ça t'intéresserait de devenir comme artiste invité? J'ai proposé aux étudiants, donc pendant 5 mois, de travailler avec eux sur la thématique d'un shelter studio pour Tihange, un, et deux, comment les étudiants voyaient la réhabilitation du site après démantèlement. Qu'est-ce qu'ils voyaient après ? La réhabilitation du site après, parce que ce sont surtout les étudiants de Jean Blou, architecture du paysage, qui sont venus se joindre aux étudiants de la Cambre pour y travailler. Et c'était très bien parce qu'en fait, des professeurs de la Cambre, des professeurs de Liège et de Jean Blou qui se réunissaient, etc., et qui aidaient à soutenir ce projet. Parce que au départ, j'ai appelé Franck de Koning à venir faire une conférence pour parler du nucléaire, parce que les étudiants ne savaient pas vraiment ce qu'était une centrale nucléaire ni un site nucléarisé. Donc il a fallu commencer à beaucoup parler de ce que c'est, des déchets, des sites de déchets, de toute cette infrastructure assez importante et imposante qui monopolise des centaines de personnes, des milliers. Et donc on a fait ce travail et bon, certains étudiants ont travaillé sur des projets de lagunage de l'eau, d'autres un data center qui serait suspendu au-dessus d'une zone humide qu'on laisserait tout à fait naturelle. Beaucoup de projets comme ça qui sont éveillés. Et franchement, j'ai vraiment demandé pour que les étudiants soient intégrés à l'exposition. On voit Emilio Lopez Manchero avec sa grande peinture. Il y a aussi Reginald de Coster avec une grande peinture aussi, peinture à l'huile. Peinture. Il y a trois ou quatre peintres, on va dire peintres. Voilà. Il y a Natalia Di Melo avec sa vidéo tournée à Doule et ici à Tihange. Il y a Jean-Pascal Février avec des pliages en carton avec lesquels on pourrait imaginer des structures pour le shelter studio. Tout simple, des choses très simples, parce que je pense qu'on y arrivera avec des choses très simples.
Mais donc, à un moment donné, elle a fait vraiment le rapprochement entre son travail plastique et ce domaine-là.
Alors, Jean Coton, oui. Cécile Massard me parle d'un grand panneau.
En fait, c'est moi qui suis en train de manger, déjeuner, sur le paysage d'ici. Je mets Tihange, mais inverse.
Très simple, mais très marquante. Je pense que si un jour il y a un shelter studio, c'est un bâtiment, c'est un lieu qui sera reconnaissable, c'est sûr. Il n'y a pas d'architecture du nucléaire. Dans le nucléaire, il n'y a pas d'architecture. Vous demandez ce que l'un et l'autre de vous dire ou dessiner ce qu'il pense, ce qu'il voit quand on lui dit nucléaire, une cheminée avec... voilà. Donc, mais c'est pas ça. Je pense que si on entame maintenant ensemble avec Londres, avec les Carpenter à Londres, etc., si on est occupé de travailler pour mettre en place une culture du nucléaire, et aux États-Unis aussi, puisque l'année dernière, j'ai remarqué que c'était vraiment ça commençait à être très, très intéressant aussi, ça peut avoir sa place, je veux dire, toutes ces recherches aussi.
C'était pas revanchard, c'était pas on va tout casser, il faut changer. On vit avec, il faut vivre avec, on est là, on est dedans, on ne sait pas. Il faut continuer, quoi. Ah oui, ils ont eu au début, enfin, encore maintenant, ils se demandaient quoi, qu'on allait venir casser, manifester. Ben non, c'est un constat, voilà, on vit dedans. C'est une belle exposition, alors qu'on pourrait croire que faire une exposition sur le nucléaire ou l'après-nucléaire, ce serait... Non, c'est pas catastrophe, hein, on espère. Et alors, le panneau, c'est ça. Bon, ben, je viens boire un coup, les vaches sont là, des petits oiseaux et des perruches qui s'envolent. Le site a disparu, il est juste en pointillé, mais très fort, si je l'ai mis, on dit, moi, c'est un peu trop fort. Et non, parce qu'il reste, quand on parle aux Hutois, ça va rester dans leur mémoire, ça, c'est quelque chose, une marque s'est imprimée dans... Même quand le site aura disparu, il sera toujours là, il y en a toujours qui le verront, quoi, ça, c'est... Voilà, c'est une simple représentation, gentille, sans a priori, sans...
Tous les artistes qui font ces recherches, je veux dire, Jean Coton avec son grand panneau qui parle de la centrale et en même temps de gens qui pique-niquent aussi tout autour. Parce que c'est la réalité, c'est la vie.
C'est pour ça qu'on veut quand même faire comprendre que Tihange, je répète plusieurs fois, ce n'est pas que la centrale. Actuellement, c'est la centrale, mais avant ça, c'était bien autre chose. Et on veut en regarder... L'histoire dit aussi qu'il y avait autre chose que la centrale. Voilà, c'est un peu notre leitmotiv dans cette République libre de Tihange.
Et c'est ta mission aujourd'hui, c'est de nous raconter que Tihange était aussi un paradis. Enfin, du moins, c'est ton paradis à toi.
Oui, c'est un paradis. C'est quelque chose que moi j'apprécie. Paradis, je ne sais pas si on peut appeler ça un paradis, mais c'est, voilà, ça a une âme, c'est ça. Et moi, c'est là que j'ai les plus grands souvenirs de jeunesse. c'est là que j'ai gardé beaucoup d'amis et que j'ai envie de faire partager. Voilà.
Julie Maréchal, nous sommes en train d'écouter une pièce radiophonique de Marie-Lou Franken.
C'est Marie-Laure Franken, c'est une artiste qui a fait une création sonore magnifique à Tihange, qui avait été présentée dans le cadre de la Biennale de photographie à Marchin.
Et toi, Yves, tu te souviens enfant quand tu as vu cette tour de réacteur construite, ça t'impressionnait ou...
Ah oui, on a d'abord, comme on était jeune et à l'école primaire, on a d'abord eu, ici, parce qu'on arrive devant la centrale, on a eu d'abord la première pierre, qui était un grand vaste étendu. On a eu le roi Baudouin qui est venu en hélicoptère. Poser la première pierre de la centrale. Donc ça, c'est la première vision de la centrale qu'on a. Donc, inauguration, un terrain tout vierge, un hélicoptère qui vient, qui dépose le roi, qui fait ça. Donc, gamin, en avait 11 ans, 10, 11 ans, c'était... Et puis alors, on a eu une deuxième, qui a été le premier trou fait pour la centrale, qui était le cœur du réacteur, qui a eu... Ils ont fait un immense trou et... on a refait une deuxième inauguration, et là, en tant que gamin, on était avec dans les Dumper de chez Duchesne, qui était une entreprise de Stryk, qui a beaucoup, enfin, qui a bien évolué avec la centrale, qui a eu assez bien de marché. Et on a fait le tour de passer devant le roi qui était revenu, mais là, il y avait déjà des travaux dans les Dumper.
Et en fait, c'est une petite séquence de 20 minutes lors de laquelle on entend deux Tihangeois qui se promènent avec Marie-Laure et qui racontent l'histoire de leur village.
Et ton papa, tu disais, quand il y a eu ces travaux de construction-là, centrale, tu te souviens qu'il en parlait ?
Oui, on en parlait beaucoup. Hein. C'était, en plus, en tant que politicien, ben oui, ça, ils en ont beaucoup parlé. Et puis la construction, la pré-construction et tout ça. Quoi. Donc la centrale est venue, c'était un boom économique et autre. Ils avaient choisi Tihange, pourquoi ? Ben, parce qu'il y avait l'espace, il y avait un débit d'eau suffisant de Meuse pour pouvoir faire le refroidissement. Donc voilà, c'était un endroit stratégique qui a été choisi. Voilà, parce qu'il y a toute cette plaine d'alluvions où on a construit la centrale qui permettait que la roche était suffisante pour pouvoir stabiliser la centrale, enfin, toutes des choses comme ça. Quoi. Donc, et qui était un terrain un peu, depuis qu'on ne faisait plus la tourbe, mais qui était un peu non utilisé, comme il n'était pas vraiment utilisable comme champ et tout ça. C'était un endroit qui était quand même un peu délaissé, si on peut dire. Donc, c'est un terrain qu'ils ont pu exploiter, qui n'avait plus grande utilité, ou du moins une grande rentabilité. Ce terrain est très bien à côté.
Et raconte la construction, peut-être de la centrale, mais aussi l'école et leurs expériences et leur vie.
Alors ici, en face de nous, tu as l'ancienne cidrerie Stimard. C'est là qu'était fabriqué le cidre et l'hydromel. Donc, et alors chaque année à l'école primaire, on venait voir. Et ce bâtiment maintenant, c'est la Pommeraye, c'est un centre pour handicapés adultes.
C'est une porte ouverte, et c'est d'ailleurs une porte ouverte qui nous a aidés lors d'une journée ici, d'une soirée pardon, ici à l'espace Saint-Mangold, d'ouvrir une discussion philosophique avec des personnes qui sont venues parler de Tihange.
Le quartier qui était ici le long de la grande route à quatre bandes maintenant, c'était aussi un quartier, ce qu'on appelait le Ponton. C'est un quartier où il y avait restaurants, cafés, des gens qui s'occupaient de condomophilie, un petit peu tout. C'est vraiment tout le caractère rural de la vallée de la Meuse, ici à Tihange, a été saccagé par la construction des bâtiments de la centrale.
Cette création sonore de Marie-Laure Franken s'appelle « Quand Tihange goûtait la fraise ».
Pourquoi une république libre de Tihange ? Pourquoi ?
Tihange, esquisse pour un shelter studio. Ah oui, jusqu'au 17 février, à l'espace Saint-Mangold et au centre culturel. Dans le cadre de Atomes crochus, exposition, spectacle et rencontres autour du nucléaire.
Mais alors après, même une fois qu'on aura été les centrales, tu as combien d'années avant de pouvoir même les démonter, quoi. Tu dois, il ne faut produire un peu de courant que 20 ans après, tu seras toujours dedans, quoi, parce que tu ne peux le réacteur, tu ne peux pas, il va rester. Donc le comment, à moins que certaines choses disparaissent, comme par exemple la cheminée, là, ou quelque chose comme qui vont un peu, mais autrement le cœur va toujours rester, quoi.
Le cœur va toujours rester.
Même quand ils seront arrêtés, quoi. On démontera peut-être tout ce qu'il y a autour, mais les trois réacteurs vont rester, quoi.
Avec Julie Maréchal, Annick Blavier, Daniel Van der Gucht, Jocelyne Koster, Natalia de Mello, Benoît Félix, Jean Coton et Cécile Massard.
Les tours pourraient être démolies, tout ça, mais les réacteurs vont rester parce que il y a tout un potentiel
radioactif. Des centaines d'années. Hein, donc,
il faudra faire un sarcophage en béton ou un machin comme ça sur le cœur du réacteur. Bon, les bâtiments annexes peuvent être démontés, mais bon, faire quoi avec un emplacement pareil?
Extrait de la pièce radiophonique de Marie-Laure Vranken, intitulée « Quand Thiange goûtait la fraise ». Thiange, esquisse pour un shelter studio, par Thierry Junico. Le Monde Invisible est produit par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.